Bonjour tout le monde, j'espère que ça se passe bien pour vous. On va discuter de beaucoup de choses aujourd'hui, bien sûr, comme d'habitude. On va parler quand même de cette COVID. On voudrait parler de plein d'autres choses, mais qu'est-ce que vous voulez? L'actualité nous ramène à ce sujet assez central dans nos vies parce qu'on est obligé de subir encore et de plus en plus les affres de ce virus-là. Et vous voyez que là, c'est jaune, orange et une tendance orange qui est marquée. Il y a plein de nouvelles ce matin là, qui nous font réagir. Évidemment, lundi, vous vous souvenez, on avait reçu le docteur François Marquis qui travaille aux soins intensifs. C'est lui le chef des soins intensifs à Maisonneuve-Rosemont qui nous a fait un cri du cœur. Un cri du cœur vraiment bien senti là, pour nous dire... Regardez, peut-être que vous connaissez pas quelqu'un qui a été aux soins intensifs, mais moi, j'en vois passer beaucoup. Et je peux vous dire que c'est sérieux. Ça met une pression extrêmement forte sur notre système de santé. S'il vous plaît, faites attention, ne serait-ce que pour ça. Et pourquoi je vous parle de ça ce matin? C'est parce qu'on est en train de se dire, il y a de plus en plus de monde là, qui craignent ne pas pouvoir se faire traiter. Vous avez peut-être une maladie en ce moment, vous qui m'écoutez, vous êtes peut-être sur la liste d'attente, justement, pour une chirurgie depuis des mois. Peut-être vous l'attendiez avant même que la COVID nous tombe dessus. Puis là, bien, c'est reporté, reporté, reporté. Et là, vous vous dites, bien, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est énormément d'inquiétude. Vous m'écrivez beaucoup là-dessus et je la lis, cette anxiété que vous avez, avec beaucoup de justesse, d'ailleurs, à savoir qu'est-ce qui va vous arriver? Est-ce que vous craignez de ne pas pouvoir vous faire traiter pour votre problème de santé à cause d'un manque de ressources? C'est vraiment ça la question que je voudrais aborder avec vous en première heure d'émission. Et je vous donne nos numéros tout de suite pour réagir à ça. Si vous avez une histoire à me raconter là-dessus, hier, entre autres, ou plutôt lundi, il y a un monsieur qui nous appelait pour nous dire à quel point il était découragé, même dévasté, parce qu'il est traité en oncologie et il commence des traitements de chimio. Et il a peur. Il y a des gens qui ont véritablement des risques à l'attraper, cette maladie-là. Alors, peut-être que ce n'est pas votre cas, mais c'est peut-être le cas de votre voisin ou de votre proche. J'aimerais vous remettre en bouche, d'ailleurs, en tête, les paroles du docteur François Marquis et ce cri du cœur de lundi matin.
Le problème, c'est qu'une fois que les hôpitaux du Québec, puis mon hôpital, il est absolument rempli de patients COVID, là, ce qui m'inquiète, moi, là, c'est tous ceux qui ont une maladie autre. Le système de santé va devenir paralysé. On ne sera pas capable de les traiter. Ça, c'est des cancers qui auraient pu être guéris, qui ne seront pas guéris. C'est des infarctus qui n'auraient jamais dû mourir, qui vont mourir. Puis c'est aussi des jeunes là, qui vont s'être pétés à la margoulette là, en vélo de montagne, puis qui vont avoir besoin de plaques et vis, puis qui vont attendre des temps fous à l'urgence, puis qui risquent de se ramasser avec la COVID aussi. C'est que ça dépasse tellement juste la petite question personnelle de est-ce que moi je vais l'attraper puis ça va mal aller ou ça va bien aller? C'est au-delà de ça. Je m'excuse, là, c'est un cri du cœur, mais je suis tanné de voir le monde faire les beaux os, c'est juste ça.
Bon, vous vous en souvenez. Moi, ça m'a marqué. Vous étiez probablement à l'antenne. Je suis sûre que ça a dû avoir son effet aussi. Et on va en parler avec le docteur Hugo Vien, qui est chirurgien orthopédique à l'hôpital du Haut-Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour, docteur Vien.
Bonjour, Isabelle.
Ce cri du cœur de votre collègue, le docteur Marquis, est-ce que vous le sentez, vous aussi? Est-ce que vous avez l'équivalent?
Oui, mais ça me remet surtout en question sur nos propres agissements comme citoyens, là, parce qu'on se parlait la semaine passée, puis je disais moi-même que j'avais été un petit peu délinquant, là, que j'avais pas peut-être mis toutes les mesures de façon obsessive en place là, dans mes pratiques courantes, pas à l'hôpital, mais dans ma vie personnelle. Puis ce qui m'inquiète le plus, ça pour avoir deux enfants de 10 et 12 ans, là, c'est de réaliser, puis là où je me trompais un petit peu, c'est que j'avais l'impression qu'on était pour éradiquer la présence des virus dans nos milieux de vie, là. Puis c'est un peu vrai pour l'influenza. Je pense qu'on l'a quand même montré qu'il y a beaucoup moins d'influenza, là, en Australie, entre autres, la grippe est passée, puis presque finie, puis on a eu moins de cas. Mais les rhumes, qui sont aussi des virus transmis, des virus des voies respiratoires, sont transmis actuellement à l'école, là, chez les enfants. Les rhumes sont ultra présents, puis on a l'impression qu'il y en a plus que d'habitude. Alors, ça montre ça que malgré toutes les mesures qu'on met en place là, puis que je trouvais qu'ils étaient quand même assez bien suivis par les Québécois, les virus passent à travers de nos défenses. Puis ça implique que le COVID va finalement éventuellement réussir à le faire aussi. Là. Et ça, c'est inquiétant.
Vous êtes bien placé pour en parler, puisque vous-même, docteur Bien, vous êtes à la maison parce qu'un de vos enfants est en attente d'un résultat de test à la COVID.
Oui, absolument. Donc là, les deux enfants chez nous ont eu des manifestations d'infection des voies respiratoires supérieures. Donc, un peu de tout, mal de gorge, mais poqué, là, c'est un petit peu pas de la grande fièvre, mais Donc là, est-ce que ça fit vraiment avec les symptômes de COVID? Puis ça, c'est un problème pour la majorité des travailleurs puis des parents aujourd'hui, là. C'est qu'est-ce que je fais avec cet enfant-là? Puis on a vu les mesures là au niveau du entre le ministère de l'Éducation et de la Santé publique avec des critères un petit peu différents, là, soit qu'on vérifie avec le ministère de l'Éducation ou avec la Santé publique sur quand garder l'enfant à l'école puis quand le faire dépister. Mais ce que ça a comme impact, c'est qu'il y a un paquet de monde de parents comme moi là qui se demandent, c'est est-ce qu'on rentre au travail aujourd'hui ou on s'occupe d'un enfant puis qu'on le garde à la maison? Encore à l'air, l'inquiétude que j'ai, c'est qu'on a énormément d'infirmières dans nos hôpitaux qui sont mères de famille, là. Et quel impact ça va avoir sur notre capacité de prendre en charge la clientèle qui va en avoir besoin quand les infirmières vont être prises à gérer leur propre famille de la même façon dont ils ont à gérer les enfants, les patients à l'hôpital. Mmh. Ça m'inquiète, honnêtement.
Et, pardon, si le test est positif, l'impact que ça va avoir sur vous et sur vos patients est important. Parce que là, vous allez devoir rester à la maison, si je comprends bien, là.
Oui.
En confinement, annulation de vos chirurgies, forcément?
Oui, annulation des chirurgies. Les cliniques externes, tu sais, une clinique externe, une journée orthopédique, là, il peut avoir 40, 50, 60, 70 patients qui sont cédulés pour avoir un rendez-vous. Là, c'est des gens qui ont probablement pris congé de leur travail, qui ont des papiers d'assurance à faire remplir pour avoir leurs prestations, qui seront pas, qui prennent pas à être rencontrés, puis qui pourraient se voir repousser leur rendez-vous de 2-3 semaines. À l'échelle d'un chirurgien, là, une journée clinique coupée, c'est quelque chose, mais là, c'est 70 vies qui reçoivent, qui subissent l'impact direct là, de l'absence du médecin, sans compter la même problématique pour des chirurgies pour lesquelles ils attendent depuis plusieurs mois. Là. Donc, on parlait, là, sans faire pleurer personne, du travail puis de l'importance des gens du milieu de la santé, là. Mais c'est pas tellement pour les gens du milieu de la santé comme pour l'impact qu'on a comme groupe sur l'ensemble des services à la population.
Oui, puis vous parliez des infirmières, je vais leur parler là, tout à l'heure là, vers 10h30 là, à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec qui représente les infirmiers et infirmières. C'est sûr qu'ils vont nous dire aussi, ils vont confirmer ce que vous dites. Mais dans votre cas, là, par exemple, je reviens à ce test positif. Un de vos enfants est en attente d'un résultat de COVID. Si le test est positif, vous venez de nous dire, je vais devoir reporter mes chirurgies, puis c'est la vie de 70 personnes sur laquelle ça va avoir un impact. Puis on pourrait multiplier par deux parce que votre conjointe est aussi médecin spécialiste. Donc, ça veut dire que vous deux, vous allez devoir, pas juste vous, là, elle aussi, là, elle est gynécologue, si je ne me trompe pas, c'est ça?
Gynécologue, elle garde aujourd'hui. Donc là, elle est partie parce qu'hier, on n'a pas été en contact. On a, à l'intérieur de la maison, mis en application des mesures d'isolement. Donc, il n'y a pas eu de contact entre ma fille puis ma femme. Mais imaginez, là, la gestion à l'interne, ça devient presque aussi compliqué que de gérer le fonctionnement à l'intérieur d'un bloc opératoire parce qu'on a tous la responsabilité de ne pas transmettre ou d'être un vecteur. Puis je dis honnêtement, depuis le début de la pandémie, moi, c'est pas tellement le stress, bien que on minimisera pas les effets du virus, là. Ils sont réels. Puis surtout les complications. Moi, c'est pas d'être malade pendant 2 semaines qui m'inquiète, mais c'est les possibilités d'atteindre les vasculites, là, les problématiques endovasculaires, de thrombophlébites, de thrombose artérielle, d'ACV. Je suis à près de 50 ans, je suis pas très à risque, mais ce qui nous a fatigués tout le temps de la pandémie, c'est de savoir, hey, j'ai un peu des symptômes, j'ai un petit peu mal à la gorge parce que j'ai parlé fort hier, puis tout l'impact que ça a dans la gestion de nos vies quotidiennes, puis ça, c'est vrai pour nous, mais c'est certainement vrai pour tout le monde qui travaille, là, qui doit sortir de son domicile, qui s'occupe des enfants, puis nos enfants, après ça, ils vont se promener, puis ils partent en trottibus là, avec les amis à l'école. C'est les ramifications de l'implication pour tout le monde est extrême. Puis ce qui m'inquiète avec l'arrivée de l'automne, on en parle, les antidépresseurs, puis les problématiques d'inquiétude généralisée, on va tomber dans une période un peu grise, puis la lourdeur, j'ai l'impression qu'elle va être, en tout cas moi personnellement, je suis encore plus affecté par la présente apparition au retour de la présence du virus que je ne l'étais au printemps. Au printemps, on était sur l'adrénaline, il y avait une situation de crise, mais là, il y a comme un épuisement qui se manifeste, puis sans être pessimiste, là, je suis inquiet parce que j'ai l'impression aussi qu'à l'intérieur des troupes là, du réseau, du rôle des infirmières, des équipes de support à l'hôpital, des préposés aux bénéficiaires, il va y avoir, il y a déjà une pénurie dans beaucoup de milieux. J'appréhende une problématique au niveau de la présence au travail.
Mm-hmm. On a Claude qui nous appelle, qui est en attente d'une chirurgie oculaire. Bonjour Claude.
Bonjour, Madame Maréchal. Moi, j'ai 78 ans, je vis seul. Ça fait depuis le mois de février, j'attends pour opérer pour les cataractes. Là, dans le moment, ça rend, une cataracte, ça s'améliore jamais, là.
Mm-hmm.
Là, je vois quasiment plus. Là, j'essaye. Moi, j'adore le sport. Je suis même pas capable de regarder mon hockey. Je me couche, puis je rouvre la télévision, mais je la regarde pas, je le vois pas. Puis, je me faisais un café, là, avec une cuillère, il coûtait vraiment la même chose, parce que je voyais pas comment en mettre dans la cuillère. Là, ma nièce, elle m'a acheté des cuillères à mesurer. Là, j'ai venu à bout. Là, je peux me faire un café qui goûte à peu près toujours la même chose.
Je comprends que vous avez vraiment besoin d'une opération, là, Claude. Là.
Ben oui. Là, Mme Maréchal, là, je me suis enregistré en clinique privée. J'ai pas les moyens, mais Alexandra, à votre poste, puis M. Drainville, quelqu'un m'a rappelé, parce que j'avais appelé eux autres, quelqu'un m'a rappelé qu'il payerait pour moi au privé. Mais là, je suis plus capable de le rejoindre, je sais pas ce qui se passe. Là, j'ai décidé d'y aller pareil. Il va le mettre sur ma carte de crédit. Moi, je vis avec le supplément du revenu. Là, il va falloir que je me serre la ceinture d'un trou ou deux de plus pour aller au privé. Puis le privé, ben du monde du garage-là, là, étant donné qu'au public, on ne peut plus y aller.
Donc, là, vous ben dites, au grand mot, les grands moyens, je sors ma carte de crédit.
Quoi, là, c'est ça. Ou me ramasser dans un CHSLD, puis ça, j'y arrive jamais.
Oui, je comprends, Claude. Ouais, bonne chance. Merci beaucoup de ce témoignage. Ce que Claude nous dit, c'est que là... Il n'y a pas les moyens, mais il est obligé d'aller au privé, où beaucoup de gens se tournent d'ailleurs, parce que quand tu as un problème de santé important que tu crains pour ta santé, c'est souvent là qu'on atterrit. Il y a énormément d'attentes dans le système et les gens qui doivent être hospitalisés sont véritablement en train de se dire ben là, est-ce que je suis oublié? Est-ce que je passe entre les cracks en ce moment? Est-ce que c'est la COVID qui prend et qui brûle toutes les ressources? Bref, on va s'arrêter ici. Docteur, viens, reste avec nous. Encore quelques minutes. Après la pause, je vais vous entendre. J'aimerais que vous répondiez à cette question. Est-ce que vous êtes parmi ceux qui craignent de ne pouvoir se faire traiter pour votre maladie, peu importe laquelle, parce qu'il y a un manque de ressources flagrant dans les hôpitaux, parce que la COVID prend toute la place. 514-790-9850. Est-ce que vous craignez de ne pas pouvoir vous faire traiter pour votre maladie à cause du manque de ressources là, qui sont pas mal pompées, ces ressources, par tous les cas de COVID qui augmentent? On a Stéphanie qui est avec nous, dont le père, justement, attend une chirurgie assez importante. Bonjour Stéphanie.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, dans le fond, c'est mon père, il attend pour une transplantation pulmonaire. Le garçon, depuis juin, il était premier sur la liste, mais encore, on n'a pas de nouvelles, puis c'est... Il est toujours à l'hôpital, puis c'est vraiment compliqué. Il faut faire attention si on va voir des gens, tout ça, pour pas ramener. Parce que lui, si vraiment il attraperait le COVID, ça serait...
Oui, c'est fatal. Ouais. Êtes-vous capable de le voir régulièrement? Êtes-vous capable d'aller le voir tous les jours, par exemple?
Oui, ma mère, elle y va à chaque jour. Sinon, moi, quand je peux, je vais peut-être une fois par semaine, parce que c'est quand même... Moi, je travaille dans une école. Fait que j'essaye le moins possible de rentrer en contact pour pas justement amener quoi que ce soit.
Vous auriez peur d'être un vecteur asymptomatique, là. Ouais.
Exactement, parce que moi, je suis en contact avec des jeunes tout le temps. Fait que c'est ça aussi qui est dangereux, là.
Donc, vous avez peur pour votre père, en fait, Stéphanie, là. Vous voyez pas le jour où on va l'appeler pour lui dire on a des poumon ou des poumons pour vous, là.
Exactement. Puis mon grand-père est décédé justement du COVID. Fait qu'on a vu aussi le calvaire. Mon grand-père était Alzheimer. Puis lui, pendant 2 jours, il était attaché, puis à l'hôpital, puis on pouvait pas le voir. Puis tu sais, après, c'est sûr que ça fait peur que si mon père l'attraperait, tu sais, que on a vraiment vu c'est quoi qui peut arriver, là. Puis c'est grave, là.
Ouais, merci Stéphanie. Puis bon courage à vous, votre famille, puis à votre père. Merci bien de votre témoignage. On a Caroline avec nous qui est en attente d'une biopsie. Bonjour Caroline.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, bien en fait, moi, c'est que je suis en attente d'une biopsie pour savoir si les nodules que j'ai sont cancéreux ou pas. J'ai quand même été rassurée que les chances étaient quand même faibles, mais ça reste quand même que j'ai au moins 5 à 6 mois d'attente pour la biopsie. Puis ça, tout se passe bien pour la COVID. Fait que ça reste quand même que, même si mes chances sont quand même plus faibles, ben c'est très stressant parce que je me dis que les petites chances que ce soit ça, ben ça fait en sorte que ça dégringole. Puis on sait que plus on est jeune, plus c'est virulent. Fait qu'il faut quand même que je vive avec ça dans la tête en attente de me faire appeler. Puis on sait qu'avec la deuxième vague, ben ça risque d'être beaucoup plus long que ça encore. Fait que c'est pas c'est ça. Ça touche pas juste les chirurgies, là.
Avez-vous pensé à aller au privé pour vous faire faire cette biopsie?
Ben la première étape, c'est que j'ai envoyé la demande à plusieurs hôpitaux en me disant qu'il y avait peut-être des hôpitaux qui avaient moins d'attente. Puis oui, ma deuxième étape, c'est d'aller au privé, effectivement.
Mmh. Ben, bonne chance, Caroline. Merci beaucoup de votre appel. Merci bien. Robert, bonjour.
Oui, bonjour. Moi, mon cas est un peu particulier. C'est que j'avais une date d'opération et ça devait se faire aujourd'hui à l'hôpital de Sainte-Agathe, une opération pour une hernie. Et j'ai le 8 septembre, le lendemain au retour de la vacance
de la semaine du travail.
Là. Mm-hmm. Là, tout ce qu'on entendait, c'est deuxième vague. Et en plus, pour finir le plat, on apprend que deux médecins et deux infirmières à l'hôpital de... pas à l'hôpital, mais à Saint-Jérôme, venaient d'être déclarés positifs parce que c'est des gens qui étaient là pour prendre des prélèvements. OK? Pour savoir si vous êtes COVID ou pas, là, avec le Q-tips, là. Bon. Fait que là, je dis non. T'as un peu. Moi, j'irais pas faire le bouffon d'aller me sacrer dans le trouble. Mm-hmm. Fait que j'ai appelé, j'ai dit l'opération du 23, oubliez ça. Ça va être remis. Je sais pas quand, mais je dis moi, je prends pas de chance. Et pour finir le plat, lundi, Paul Arcand rentre en onde en disant on vient d'apprendre que l'hôpital de Sainte-Agathe, là où je devais me faire opérer, le département de la chirurgie, est fermé parce qu'il y a une éclosion, ils doivent tout désinfecter le département. Ça va-tu bien? Fait que on appelle tout ça de la prémonition, je le sais pas, mais je me suis retiré de là, puis Christy, que j'ai fait une bonne affaire. Il n'y a plus rien qui est fiable aujourd'hui, je regrette, là. Mais puis tant mieux si ma place que j'ai libérée aide quelqu'un d'autre. Mais moi, avant, je me présente le nez dans une christie d'hôpital. Où est-ce que tu vas sortir de là, mort ou plus malade que quand t'es entré, là? Forget it.
Ben, je vous comprends tellement, Robert. Merci beaucoup de ce témoignage parce que ça, c'est intéressant aussi. Puis je vais me tourner vers le docteur Hugo Vien. Vous êtes chirurgien orthopédique, je le rappelle, à l'hôpital du Haut-Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu, docteur Vien. Là, Robert nous dit que, bon, lui, il craint pas de pas pouvoir se faire traiter parce qu'il y avait une date d'opération, c'est aujourd'hui, mais il a préféré annuler quand il a vu en plus qu'à Sainte-Agathe, l'hôpital avait eu des cas, et devait être en mode de désinfection et tout. Donc lui, il dit, moi, c'est pas vrai que je vais retourner là. Avez-vous beaucoup d'annulations, vous, de patients qui disent qu'ils craignent finalement de mettre le pied à l'hôpital?
On en a eu beaucoup pendant la période plus aiguë là, du printemps. On avait beaucoup de patients à rendez-vous qui devaient se présenter, qui ne se présentaient pas ou qui laissaient leur place, ou qui disaient « écoutez, ça va attendre ». Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui ont repoussé leurs besoins pour des conditions que normalement ils auraient consultées. On le voit d'ailleurs avec l'oncologie, là, où on se rend compte que les programmes de dépistage ou en tout cas de prévention ou de consultation pour les débuts des symptômes nous amènent avec des conditions qui sont probablement plus avancées qu'elles ne l'auraient été si les patients avaient pu consulter à temps. Ça s'est un peu atténué. Je pense que les gens ont pris confiance, puis on a tous aussi pris confiance en nos mesures à l'hôpital de protection. Puis je peux rassurer votre dernier intervenant aussi, que je pense quand même à l'hôpital même, une fois qu'on entre, il y a tellement de surveillance, le système est rodé, c'est solide comme protection, autant du personnel que des patients. Par contre, où je trouve ça intéressant, c'est que la personne dit je laissais ma place, tant mieux, ma place pour quelqu'un qui en avait plus besoin. Je pense que, ça je l'ai souvent parlé là, dans une vie antérieure, que notre système de santé québécois est un des meilleurs au monde. Malgré toutes les critiques qu'on y fait, il faut regarder les raisons pour lesquelles on attend et qu'on se plaint qu'on attend. La gravité de ces raisons-là est moindre que dans la grande majorité des autres pays du monde, même les pays industrialisés. Donc oui, on attend, mais on attend pour des choses moins graves, je vous dirais. Là où on est moins bon, par contre, ça a été de prioriser la gravité, prioriser les cas en fonction de l'importance de leurs symptômes, parce que le système n'est pas fait pour ça. On est très très bon à sortir des statistiques, puis le ministère est très à l'affût des statistiques individuelles des différents centres hospitaliers sur leur performance. puis sur leur liste d'attente. La problématique qu'on a, c'est qu'on ne sait pas comment les gens vivent leur attente et on n'a aucun moyen, à part certains patients qui vont rappeler au bureau puis harceler pratiquement le bureau du médecin puis le médecin pour dire que leur situation se détériore ou que c'est plus endurable, particulièrement au niveau de la douleur en orthopédie. Mm-hmm. On n'a pas de moyen de prioriser les gens les plus malades pour s'assurer qu'eux soient hospitalisés en premier. Je regardais le cas du premier patient avec la cataracte, là. Bien, c'est un éventail, les atteintes de la cataracte. Il y a des patients qui sont en attente pour un début de cataracte qui fonctionne encore très bien, puis il y a d'autres patients qui sont lourdement hypothéqués. Et là où on échoue actuellement, c'est dans un cas de force majeure, comme c'est actuellement, on va restreindre encore l'accès au plateau technique, puis l'accès aux services, puis aux soins. C'est de s'assurer qu'on traite les bonnes personnes au bon moment puis qu'on priorise les gens qui en ont vraiment besoin. Parce que pour une majorité ou pour beaucoup de patients, d'attendre quelques mois de plus, c'est potentiellement endurable. C'est triste, c'est plate. Mais malheureusement, il y a des gens là-dessus qui sont complètement oubliés parce qu'eux ne prennent pas le téléphone puis ne réussissent pas à rejoindre le médecin pour mettre du pushing et être priorisés dans leur chirurgie.
C'est très dur, docteur, vient de rejoindre son médecin, de lui parler directement. Il y a beaucoup, beaucoup de portes à défoncer avant, là. C'est excessivement dur. Il y a bien des gens qui ne savent même pas, en partant, où appeler. Une fois que tu as trouvé un numéro de téléphone, il faut que tu arrives à parler à un humain. Il y en a beaucoup qui sont en télétravail, qui font des rendez-vous. C'est vraiment pas... D'ailleurs, on a quelqu'un, là, que je pense que c'est Karim. C'est ça? Bonjour, Karim. Vous avez de la misère à rejoindre votre médecin pour faire le suivi, votre dossier, c'est bien ça?
Oui, bonjour. Moi, j'ai fait une cystoscopie fin janvier. Je devais avoir et en trouver un polype qui a été enlevé. Et le médecin m'a donné un papier pour aller à la Cité de la Santé à Laval, mm-hmm. 4 mois après. Donc, janvier, on retombe en fin mai, début juin. Mais là, j'appelle la Cité de la Santé, ça me renvoie à ma clinique me renvoie à la Cité de la Santé. J'arrive pas à avoir ni un suivi, ni un rendez-vous, rien de cela.
Donc là, vous allez faire quoi, Karim?
Ben, je rappelle, j'ai rappelé il y a 2 semaines. Finalement, je me suis fâché au téléphone. J'ai dit, madame, si vous ne me donnez pas de rendez-vous, je viendrai demain avec les papiers que m'a donné le médecin. Elle m'a dit, je vais vous inscrire sur une liste d'attente et je vais vous rappeler dans 2 semaines. Ça fait 2 semaines. Moi, j'attends la semaine prochaine. Sinon, je vais me présenter personnellement parce que vous comprenez que ça m'inquiète. Un polype, là, surtout, c'est le deuxième polype. Comment on lève? Le premier était dans les intestins, le deuxième, la vessie. Et puis, j'ai pas de résultats, je ne sais pas les analyses du polype que ça a donné.
Vous êtes dans l'inconnu, là, finalement, Karim. Là. Personne ne vous tient au courant de votre état de santé. Là.
Exactement.
Ouais. Mais écoutez, bonne chance. Merci de votre témoignage. C'est ça, docteur. Viens, hein. Vous dites, on ne sait pas trop comment les gens vivent leur attente. Je pense qu'on peut émettre l'hypothèse qu'ils ne vivent pas très bien cette attente-là. Ne serait-ce que Caroline qui dit, j'ai besoin du biopsie. Bon, ce n'est pas urgent, mais sait-on jamais. J'écoutais mon collègue Paul Arcand ce matin, lisait le courriel d'une oncologue qui, justement, faisait des tests en prévention et... Et elle semblait dire qu'elle était très inquiète. En oncologie, il y a des gens, disait-elle, écrivait-elle à Paul, qui se présentent, c'est quasiment trop tard. Alors qu'avant la COVID, les gens se présentaient avec... On était encore en mode un peu prévention. Là, on est en traitement, puis c'est tout juste si c'est pas du palliatif. Ça, c'est inquiétant, là.
Ça nous amène à l'élément de dépersonnalisation de notre grosse machine du système de santé. Moi, je m'ennuie, là... de l'époque où on avait un médecin de village. C'est le médecin de village qui voyait sa population, puis ça, je l'ai répété, puis je l'ai déjà dit, le médecin de village était responsable de sa population, puis devait voir à prioriser. C'est un rôle de fun de jouer celui d'arbitre, puis de juge dans la condition de santé de nos patients, mais il reste que c'est il y a à peu près que les médecins qui ont la permission, selon leur ordre, puis les responsabilités qui leur sont dévolues dans le système, de faire cette sélection-là. Malheureusement, c'est une job triste et plate. Mais il reste que pour gérer un système comme celui qu'on a à gérer, il doit y avoir une forme d'aiguillage puis de connexion. Puis là, on a un système qui est un peu démembré dans le contexte où on a un médecin de famille qui voit une condition. Puis là, ensuite, on a l'impression que des fois, on envoie une requête dans un système. Puis c'est un patient qui a besoin de service. Puis si le médecin pouvait appeler, par exemple, le spécialiste puis dire, écoute, j'ai tel cas avec telle situation, comment ce patient-là se priorise dans votre liste d'attente à vous comme chirurgien spécialiste? Ça serait un monde idéal, dans le sens qu'on traiterait toujours les gens de façon prioritaire qui ont vraiment le besoin de l'aide. Mais ça me touche, puis ça m'attriste de voir que dans le système de santé actuel encore, on a cette déconnexion-là entre la première et la deuxième ligne, souvent aussi, puis c'est pas le temps de faire le procès du système de santé, mais il y a des éléments criants qui ressortent à ce moment-là, c'est la priorisation, puis c'est l'imputabilité par rapport aux attentes des gens, puis à la priorité de leur, puis à l'importance de leur problématique de santé. C'est qu'on n'est plus imputable de ça. En radiologie, c'est la même chose. On déborde, les radiologistes nous disent on n'a pas de temps, on a des délais d'attente qui n'ont pas d'allure. Mais on sait très bien, nous, que quand on demande on fait une requête pour un test, ce patient-là devrait être vu dans les 2-3 premiers mois au maximum, mais on n'a pas de moyens à part de l'écrire. Là, il y a des formes de priorisation. Mais au bout, ce patient-là s'inscrit sur une liste d'attente, puis il n'y a pas vraiment de moyens d'éliminer ou de tasser ou de pousser de côté les gens qui pourraient attendre, pour lesquels même c'est pas pertinent. On a déjà parlé longtemps de la notion de la pertinence des demandes puis des requêtes qu'on a pour le soin de santé. Mais ça existe peu ou pas dans notre système. Puis malheureusement, là, ça devrait faire partie de l'évaluation de base. Donc,
mais moi, c'est le bout que je comprends pas.
Là, c'est ce qu'on voit.
Ouais, mais docteur, viens, vous êtes chirurgien orthopédique, vous opérez des gens qui ont des problèmes de dos, c'est pas rien. Là, vous envoyez des requêtes, puis vous me dites que vous êtes désespéré de voir qu'à l'autre bout, la requête est comme pas considérée. C'est qui gère ça?
Bien là, c'est un système complexe. Hein. On a plusieurs éléments. Il y a celui des cibles gouvernementales.
Non, mais le savez-vous? Vous l'envoyez à qui?
Oui, il y a des humains derrière ça, mais des humains qui ont chacun leur bout de travail à faire. Puis ultimement, ben on se retrouve avec le démembrement dont je parlais tout à l'heure. L'infirmière chef qui est responsable de la priorisation ou disons de ce qu'on appelle dans le jargon la programmation des priorités opératoires, ben elle va y aller en fonction de ce qui est demandé. Puis ce qui est demandé, c'est des cibles souvent qui sont imposées par la structure administrative de l'hôpital pour répondre à un contingentement budgétaire puis aux cibles ministérielles. Donc la place de l'humain là-dedans, là, elle commence à être difficile à trouver. Puis à moins d'une intervention particulière du chirurgien qui voudrait faire une gestion personnalisée de sa liste d'attente, ce qui complique énormément le système et qui n'est pas toujours bienvenu, c'est très difficile à faire. Dans des milieux comme Montréal, dans des centres universitaires, on ne peut pas demander ça aux chirurgiens. Je dirais qu'à la limite, ça se ferait peut-être en périphérie, mais on ne l'impose pas.
Ouais.
J'avais beaucoup d'espoir là, sur le comité de priorisation qui a été mis en place conjointement par le ministère et la FMSQ, la Fédération des médecins spécialistes, sur la priorisation des types de chirurgies qui doivent être priorisées. Ce serait peut-être intéressant d'entendre Dr. Francoeur là-dessus, où on en est. Est-ce que ce programme-là est encore actif? Mais en théorie, pendant le gros moment de la COVID, où on délestait énormément de chirurgie, il y a eu un travail qui a été vraiment fait là, dans ce sens-là. Puis ça, je trouvais ça encourageant, c'est-à-dire quelles sont les chirurgies qui doivent être identifiées, qui doivent être priorisées pour qu'on aille à l'essentiel et qu'au moins, tant qu'à sacrifier des gens, bien, sacrifions les gens qui peuvent passer au travers plus facilement que ceux qui sont sur une liste d'attente puis qui ne peuvent pas crier pour le dire puis que leur situation est grave.
Merci beaucoup. Là, je dois absolument aller à la pause. On va revenir avec vous, docteur. Bien, c'est majeur ce que vous nous dites. C'est vraiment très important, très intéressant. Restez là, tout le monde. Après la pause, on va quand même parler à la vice-présidente qui représente des infirmières et infirmiers au Québec, parce que c'est important de savoir, le docteur Vienne nous l'a dit, là, il y a un manque d'infirmières criant. Ça passe aussi par elle beaucoup. Donc, on va faire le point là-dessus tout de suite après. Je vous demande si vous avez des craintes de ne pas pouvoir vous faire traiter pour votre problème de santé parce que les ressources sont toutes complètement prises par la COVID. Il y a un manque de ressources de toute façon aussi à cause de la COVID parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le milieu de la santé qui sont atteints ou qui vivent avec quelqu'un qui l'a eu. On a Sylvie qui est avec nous, qui attend là, parce que c'est une opération quand même assez importante. Sylvie, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
En fait, moi, ça fait quand j'ai vu une chirurgienne pour mes prothèses qui ont percé, ça a pris 6 mois pour avoir un rendez-vous pour être opérée. Donc, l'opération était due pour le 23 mars.
Mm-hmm.
Le 23 mars, le vendredi, on m'appelle pour me dire, ben là, à cause du COVID, on n'opère plus. Donc, moi, j'ai rencontré à nouveau le médecin cet été, au mois de juillet, parce que j'ai dit, écoutez, ça m'élance vraiment beaucoup, ça fait très mal. Ouais, mais vous n'êtes pas un cas prioritaire. Il dit, vous savez, on n'opère même pas les gens qui ont le cancer, on les a tous cancellés parce que notre hôpital est réservé pour le COVID. Et moi, je suis très inquiète parce que ça m'élance, ça me fait mal. Je peux pas me mettre les bras en haut. J'ai tout expliqué ça au médecin. Et en plus, pas de chance, la chirurgienne que je devais avoir, c'est chanceux pour elle, elle est enceinte. Sauf que le médecin qui la remplace, j'étais pas à l'aise parce que c'était comme si j'étais rien, que c'était pas important que je... Alors, moi, je suis inquiète parce que je me dis, j'ai hâte d'être opérée, mais en même temps, là, le COVID qui repart, j'ai dit, hey, je vais être encore combien de temps avoir mal au sein? Puis là, en plus, j'ai demandé parce que j'ai une mammographie à tous les ans à cause que ma sœur a eu cancer. Et là, je suis même plus capable d'avoir une mammo, ça me fait trop mal. Donc là, je vais avoir une IRM, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir à être opéré ici au Québec? Ça n'a pas d'allure. Puis je peux pas aller. Il me dit, ah, ben vous pourriez aller en privé parce que lui, il opère en privé. Je dis, ah oui, ça prendrait combien de temps? Ben ça irait assez rapidement. Alors, je comprends pas. Il y a deux poids, deux mesures. Pourquoi dans le privé, je pourrais, puis dans le public, je peux pas?
Oui, c'est une très bonne question que vous posez, Sylvie. Merci beaucoup. On va y revenir avec le docteur Vien. Mais avant, je vais vous présenter Denise Joseph. Elle est vice-présidente de la FIC, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Bonjour, Madame Joseph.
Bonjour.
On a beaucoup entendu le cri du cœur des infirmières la semaine dernière, entre autres, qui disaient là, que vous êtes épuisés, que vos membres sont plus capables, là, que la pression créée par ce virus est telle là, sur vous là, que... À cause du décret du gouvernement, finalement, les infirmières sont presque forcées de faire des longues heures. Est-ce que les gens là, qui nous écoutent et qui témoignent là, depuis tout à l'heure, ont-ils raison de craindre que la COVID prenne toute la place?
Bien, en fait, à la première vague, la COVID a pris toute la place dans les hôpitaux du Québec, à notre grand désarroi. Puis on a vu là, les conséquences de ces décisions, mais en même temps, avant l'arrivée de la COVID, malheureusement, déjà, les professionnels en soins, les infirmières auxiliaires, les inhalothérapeutes et les perfusionnistes, on était déjà en manque de personnel. Oui, on a une pénurie, on pourrait dire une grande pénurie qui s'est aggravée avec l'arrivée de la pandémie, mais on a aussi une pénurie de personnel parce que on n'est pas capable de mettre en place des postes, des conditions de travail avec des postes et des salaires attrayants pour attirer des gens dans notre beau métier et les garder, en fait.
Combien d'infirmières ont quitté le réseau depuis la pandémie?
C'est malheureusement impossible au moment où je vous parle d'avoir les données exactes, mais il y en a minimum plus de 1000 de nos membres qui ont déjà quitté depuis la fin là, de la première vague. Donc, et ça augmente à tous les jours. Oui, on a des nouvelles embauches, mais les nouvelles arrivées dans nos métiers, malheureusement, comme je vous disais, à cause du manque d'attraction et de pour les garder, ben dans les 5 premières années, les 30% de ces nouvelles arrivées dans les professions de soins de professionnels en soins, ben ils nous quittent. Donc encore là, c'est des métiers fabuleux, mais on n'est pas capable de trouver, de mettre en place des solutions qu'on propose au gouvernement et aux employeurs pour les garder dans nos métiers.
Moi, j'ai même vu vous dire plus de 1000, là, Madame Joseph. Moi, j'ai même entendu 1700. Est-ce que c'est possible, 1700 infirmières qui auraient quitté le réseau depuis la pandémie?
C'est très, très possible. Comme je vous dis, on demande les données au gouvernement et encore une fois, ben on n'est pas capable de les obtenir. On nous renvoie aux employeurs. Les employeurs nous servent la même rengaine à chaque fois que c'est difficile, mais on n'a pas un système informatique qui est capable de nous donner ces informations-là. Alors que pour moi, je crois que c'est juste pour ne pas donner les vraies données aux équipes syndicales, malheureusement.
Puis vous n'êtes pas capable de le savoir, vous, comme fédération professionnelle, savoir combien de vos membres ont quitté?
C'est-à-dire qu'on est capable de voir combien de personnes sont plus à l'emploi, mais on n'a pas les raisons pour lesquelles elles ont quitté. Est-ce que c'est une retraite? Est-ce que c'est une retraite active? Est-ce que c'est vraiment une démission? Ça, on n'a pas cette donnée-là. C'est juste que le nom apparaît plus dans notre liste. Alors, c'est assez difficile à obtenir là les résultats. On a aussi énormément de professionnels en soins qui sont en arrêt de travail présentement. Avec toutes les fusions, avec la loi 10, ça l'a amené énormément de pression sur elles. Elles sont, il y en a plusieurs, les taux de gens en assurance salaire, en accident du travail ont monté drastiquement. Et là, avec la COVID, ben, on a eu plus de 16 000 gens du personnel du réseau qui ont été infectés par la COVID. Alors, les impacts sur elles sont continuels. Et,
hey, 16 000, c'est énorme. Là, je vous dis de 16 000, là. C'est énorme.
C'est ça. Et vous voyez là dernièrement là les bris de service là en soins intensifs. Où est-ce que on a eu le plus d'impact pour les patients qui avaient la COVID-19? C'était dans les soins intensifs. Alors là, on a des bris de service en ce moment dans des soins intensifs, ce qui est totalement extraordinaire parce que on n'a jamais eu ça en septembre et au mois d'août, des bris de service. On a eu ça quand on est dans l'influenza au mois de janvier-février. Alors là, il faudrait que le gouvernement et les employeurs disons qu'ils commencent à se réveiller parce que on va frapper le mur. Là. Si on arrive à la deuxième vague et on n'est pas plus équipé que ça en personnel, en soins de santé, ben on va frapper le mur, ça c'est garanti. Et l'autre effet pervers, malheureusement, j'entendais là vos les gens qui vous appelaient, qui disaient qu'ils allaient vers le privé. Ben malheureusement, beaucoup de professionnels en soins du réseau public quittent pour aller dans le réseau privé parce qu'elles ont plus de contrôle sur leur horaire de travail, plus de contrôle sur leur vie personnelle, familiale, des meilleures conditions de travail, des meilleurs salaires. Alors, si on continue comme ça, je vous dis, on frappe le mur.
Merci beaucoup, Denise Joseph, pour cette entrevue. Je pense que c'est assez clair. En plus, on aurait pu parler longuement du fait que les tests de dépistage, là, ce sont les infirmières qui les font. Donc, quand vous parlez de frapper le mur, là, on comprend tout à fait l'image. À un moment donné, il n'y en aura plus de monde. Là.
Elles ne peuvent pas tout faire.
Merci beaucoup, Madame Joseph. Denise Joseph est vice-présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. On va à la pause, on vient tout de suite après. Docteur Vien, chirurgien orthopédique à l'hôpital du Haut-Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu, va nous aider à conclure cette heure de discussion autour de nos inquiétudes très légitimes. Celle de mes auditeurs était très claire, Docteur Vien, par rapport au fait de pas pouvoir se faire soigner, en tout cas au public. On comprend qu'il y en a qui vont se tourner vers le privé parce qu'ils ont comme pas le choix. Puis quelqu'un posait la question, on disait comment ça se fait qu'on est capable d'avoir quelque chose rapidement dans le privé, mais le public, ça prend des mois. Si on nous rappelle, des gens me disent, moi, je suis même pas capable de rejoindre mon médecin. Il y a même pas de répondeur pour laisser de message. Fait que je suis complètement laissée dans le noir, dans le cirage. C'est quand même, vous disiez tout à l'heure, on a le meilleur système de santé au monde. J'ai pas voulu vous ostiner parce que je vous aime bien, mais permettez-moi d'en douter parfois.
Ouais, ben la problématique est dans ça justement, la capacité qu'on a de répondre aux besoins de façon spécifique des gens. Mais vous parliez là de comment ça se fait qu'on a de la difficulté à rejoindre le médecin, mais si on appelle dans le privé, on peut rejoindre quelqu'un. C'est pas une situation que j'aime entendre. Puis vous savez, j'ai toujours défendu bec et ongle l'accès dans un système de santé public. Par contre, ce qu'on a comme problématique actuellement, c'est une problématique immense dans notre système de santé de ressources humaines, qui n'est pas nécessairement l'accès au docteur, dans le cas de la COVID, principalement parce qu'il s'agit surtout de l'accès au domaine de spécialité et de chirurgie dans un hôpital. C'est tout le personnel qui est un groupe en tant que tel immense qui a été mis sous pression pendant la COVID et dont dépendent les chirurgiens pour pratiquer. Pour ce qui est de l'accès au bloc opératoire, si vous regardez, là, je suis de Saint-Jean, mais dans le même 6, Montérégie-Centre, à l'hôpital Charlemagne, on sait qu'il y a 4 salles sur 10, en tout cas aux dernières nouvelles, qui sont actuellement pas ouvertes pour donner des soins. Là, c'est le cas maintenant, avant que la pandémie commence. Là. Pourquoi? Pour des problématiques de ressources humaines. C'est qu'on a une problématique d'avoir des infirmières qui sont capables d'être au travail pour un paquet de raisons qui ont été énoncées tout à l'heure. Là. Puis conditions salariales, absentéisme, tout ça, c'est une problématique qui se résume en un immense potage de ressources humaines. Quelles sont les meilleures façons de gérer ça pour nous amener vers un meilleur système de santé? Moi, je vous dis, puis je le réitère, là, que si on était capable, avec l'argent qu'on met dans notre système de santé, l'immense qualité et compétences qu'on a, on devrait pouvoir réussir à donner un meilleur accès à la population qu'on le fait actuellement.
C'est parce que là, ça s'en vient inéquitable. Voyez-vous, moi, quand j'entends que 16 000... travailleurs de la santé, 16 000 infirmières, nous a dit Denis Joseph, là, la vice-présidente de la FIC, 16 000 infirmières qui ont été contaminées par la COVID. C'est énorme. 1 700 probablement qui ont quitté. On ne sait pas trop combien. C'est peut-être même plus. C'est des sujets d'inquiétude. C'est clair qu'on aura l'occasion de s'en reparler toutefois. Docteur Vien, merci de réfléchir avec nous là-dessus. Merci de nous avoir donné cette heure-là. Très appréciée. Puis on espère que le test de votre fils va être négatif parce qu'on veut que vous restiez là puis que vous puissiez opérer vos patients.
On le souhaite pour tout le monde.
Merci beaucoup, merci bien. Hein? Incroyable quand même. Hein? On se retrouve après les nouvelles.